Sad, l'éternel prisonnier de nos mémoires.
Il donne une image extrême de ce que c'est que la dissociation entre tout besoin et le pulsionnel ou l'ordre du désir. Mais il donne un exemple de ça de façon extrême, puisque c'est en rendant la nature cruelle, ce qui est une condition un peu excessive. Il est intéressant parce que bien qu'il inscrive la cruauté dans la nature, il montre que le plaisir n'a pas de finalité en lui-même et est donc distinct des intérêts de la reproduction. Bon, ce qu'on a dit autrement, après. Mais il le dit violemment, il le dit à un moment où les cadres même de la pensée pouvaient difficilement supporter une telle thèse. Donc il le dit à partir d'une position extrême.
C'est un homme dont tout le travail, au fond, est un travail d'interrogation sur pourquoi suis-je différent, singulier. Et cette volonté contre vent et marée de défendre son droit à cette singularité. C'est très important ça, parce que il a quand même payé le prix fort. Hein, et fondamentalement, se poser la question de sa singularité et de son droit à la singularité, je crois que c'est le travail, ou c'est ce qui au fond anime tout individu, tout créateur, tout penseur, tout littéraire, tout artiste, etc. Donc il y a une dimension là, qui est une dimension d'une force extrême. Je dirais d'une force extrême, parce que d'une certaine façon, on peut dire que l'enfermement de cet homme, parce que quand on pense, c'est-à-dire que quand on est soumis par exemple à des difficultés soi-même, justement, du fait de sa propre singularité par exemple, et parfois à des moments de découragement, comme beaucoup de gens, je pense, la pensée de Sade est une force incroyable où elle est puisée pour résister.
Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Et que m'importe, bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison. Elle compose tous mes plaisirs dans le monde et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur. C'est celle des autres. Vincennes, novembre 1783.
Il y a une spécificité de chacun de ces textes et c'est les 120 journées de Sodome qui finalement sont au paroxysme presque de l'œuvre de Sade dans cette espèce de, comment dire, inventaire méthodique de tout ce qui peut être perversité possible, imaginable, inimaginable.
Mais quand on lit les rapports de police de cette époque, on voit que cette technique de dire très exactement ce qui est d'une manière assez sèche, elle était déjà très pratiquée par les tenancières même de bordel.
Chantal Thomas.
Et d'une certaine façon, l'ancrage formel de Sade, il est là. Mais je crois plutôt qu'en effet, il y a ce côté tenir un catalogue de tout ce qui est possible et le pousser même un peu plus loin. Mais c'est de la perte des 120 journées, sur lesquelles il pleure des larmes de sang quand il comprend que, c'est, ou il croit que c'est à jamais disparu, c'est de cette perte que va renaître l'histoire de Juliette et celle de Justine. C'est-à-dire que c'est les mêmes épisodes, exactement. Simplement, ils ont plus d'espace et ils sont incarnés par d'abord des personnages féminins, ce qui change beaucoup les choses. C'est plus souple, c'est une structure plus souple. Il varie très loin tout ce qu'on peut faire en manière de jouissance érotique. Et il le met sous des éclairages et à travers des personnages variables. Il y a un élan et une fureur d'écrire chez Sade qui ne se calme jamais. Et là, c'est espèce de morceau qui nous reste ces dernières années à Charenton, on voit qu'on lui arrache et qu'on lui détruit ses carnets. Donc l'œuvre de Sade, c'est beaucoup plus immense que ce que l'on a. Et écrire pour lui était un mode de résistance à la folie aussi. Ça l'a sauvé, mais aussi bien en prison que hors prison.
Il y a également son théâtre, hein, qui est très important.
Mais oui, écrire, au fond, entre, si on pense les romans, les nouvelles, le théâtre, la correspondance, il faut penser aussi l'œuvre, le travail immense qu'est le voyage d'Italie. Mmh. Avant Vincennes et la Bastille, il était un écrivain vraiment acharné, qui n'arrêtait pas, qui était possédé.
Ce qui est assez étonnant, c'est que dans ses voyages en Italie, il souligne le fait que sur l'art du roman s'articule l'expérience du voyage.
Oui, mais le voyage en Italie, ou un tout petit texte qu'il avait fait sur un voyage en Hollande, c'est quand même très intéressant parce qu'on comprend que les premiers projets littéraires de Sade, c'était des projets de guide. Et c'est merveilleux l'idée que Sade ait voulu guider. Et il était très sérieux sur les auberges dans lesquelles descendre, le prix des repas, etc.
Mais le libertin est un guide, quelque part.
Exactement. Et après, exactement, c'est exactement ce que vous dites. Et ensuite, Juliette, par exemple, elle passe son temps à organiser les nuits de Saint-Fond. Et c'est pas très différent.
Oh, Juliette, si tu veux, comme moi, vivre heureuse dans le crime, et j'en commets beaucoup, ma chère, si tu veux, dis-je, y trouver le même bonheur que moi, tâche de t'en faire avec le temps une si douce habitude qu'il te devienne comme impossible de pouvoir exister sans le commettre, et que toutes les convenances humaines te paraissent si ridicules que ton âme flexible et malgré cela nerveuse se trouve imperceptiblement accoutumée à se faire des vices de toutes les vertus humaines et des vertus de tous les crimes. Alors, un nouvel univers semblera se créer à tes regards. Un feu dévorant et délicieux se glissera dans tes nerfs. Il embrasera ce fluide électrique dans lequel réside le principe de la vie. Assez heureuse pour vivre dans un monde dont ma triste destinée m'exile, chaque jour tu formeras de nouveaux projets et chaque jour leur exécution te comblera d'une volupté sensuelle qui ne sera connue que de toi. Tous les êtres qui t'entoureront te paraîtront autant de victimes dévouées par le sort à la perversité de ton cœur. Plus de liens, plus de chaînes, tout disparaîtra promptement sous le flambeau de tes désirs. Aucune voix ne s'élèvera plus dans ton âme pour énerver l'organe de leur impétuosité. Nuls préjugés ne militeront plus en leur faveur. Tout sera dissipé par la sagesse. Et tu arriveras insensiblement aux derniers excès de la perversité par un chemin couvert de fleurs.
Dans ces autres voyages, les femmes qui essayent, disons, de faire plaisir aux libertins, elles sont en permanence sur la brèche et à la limite de l'échec. Même si elles font le mieux possible, ce mieux possible n'est pas encore suffisant. Dans la philosophie, dans le boudoir, c'est clair. Dans tous les textes de Sade, disons, les apprentis libertines n'en font jamais assez.
Et oui, c'est un apprentissage illimité. Absolument. Mais l'écriture de Sade est la proie de cet illimité. On le sent très bien. il faut toujours recommencer parce que peut-être il y a une gradation qui a manqué et peut-être il y a un très léger détail piquant qui n'a pas été trouvé. Et l'apprenti libertine est constamment dans cette demande de perfectibilité plus grande, donc de plus grande cruauté, de plus grande inventivité, de plus grande spontanéité aussi, parce qu'il y a un jeu redoutable où il faut à la fois se prêter vraiment en très bonne actrice, mais aussi ressentir, parce que sinon c'est une corvée abominable, c'est Justine, mais ne pas perdre la tête non plus. Et Juliette est un personnage si fascinant et éclatant, parce qu'elle réunit tout ça, toutes ces grâces.
S'il fallait regarder qu'un texte, quel est celui que vous choisiriez ?
Mais je ne peux pas penser à un texte précis, c'est des moments que j'aime. Et les moments qui me sont le plus chers, c'est tous les passages dans l'histoire de Juliette où Juliette ou bien est admonestée et on lui enseigne à aller plus loin et à cueillir toutes les roses du plaisir. Et c'est tous les grands discours qui commencent par « Oh Juliette ». Ça me bouleverse particulièrement. Où on lui dit si une seule fois tu hésites, tu es perdu. Si une seule fois vous hésitez, vous êtes perdu. Alors, bon, c'est ces textes qui sont comme un élan vers. Ça, je les trouve particulièrement bouleversants. Mais aussi les rencontres. Par exemple, tous les dialogues entre Juliette et la Clairville sont fabuleux, je trouve. Et ensuite, le grand voyage en Italie aussi. Peut-être c'est aussi ça, l'instant où elle met les pas en Italie. Si je devais garder un très petit extrait, je penserais ça. Mais ça, dans ma tête, c'est aussi des très brèves phrases ou des moments de luxure, un point de description.
On peut le lire aussi de manière aphoristique, en retenant qu'un seul élément.
Enfin, oui, oui. C'est vrai, il y a une fluidité de la langue de Sade, mais il y a un sens de la formule très fort, drôle d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est une sorte d'ironie de la maxime.
Mais c'est une forme d'éducation sentimentale, les romans de Sade.
C'est une éducation contre le sentiment, en tous les cas contre le brouillage du sentiment. C'est des grands romans, c'est des odes extraordinaires à la clarté. Mais une clarté, évidemment, qui s'exerce sur le fond le plus noir, le plus obscur, le plus volcanique.
Il est là, le plaisir. Il sommeille sur un lit de rose. Mon tendre amour veut-il que je l'éveille ? Ô Juliette, me permets-tu de m'embraser au feu des transports que je vais allumer dans toi ? Friponne, ta bouche m'en répond. Ta langue appelle la mienne. Elle l'invite à la volupté. Ah, rends-moi ce que je t'ai fait, mourons de plaisir. Déshabillons-nous, dis-je à mon ami. Les débauches de la volupté ne sont bonnes que quand on est nu. Je ne démêle rien dans toi et je veux tout y voir. Débarrassons-nous de ces voiles importuns. N'est-ce pas déjà trop de ceux de la nature ? Ah, quand j'excite en toi des transports, je voudrais voir palpiter ton cœur.
Dans La philosophie dans le boudoir,
Monique David-Ménard,
on a face à face deux personnages, Madame de Saint-Ange et Dolmancé.
Ils n'ont pas tout à fait les mêmes arguments de libertinage.
Ils n'ont pas tout à fait les mêmes arguments de libertinage. Tous deux enseignent la jeune Eugénie et ils enseignent à la jeune Eugénie de ne croire à rien et de suivre son seul plaisir. Mais Madame de Saint-Ange lui dit de se livrer à la sexualité, tous les lieux, tous les temps sont les bons, Ce qui n'est pas tout à fait le même argument que Dolmansé. Dolmansé recommande que l'on viole toutes les vertus et, en prenant le plaisir masculin comme modèle, une seule goutte de foutre éjaculée de ce sexe vaut mieux que toutes ces vertus qui ne sont que des chimères. Donc le ressort de la jouissance, c'est certes de multiplier les plaisirs et de rendre indifférents leurs objets, mais c'est le moment du viol de la vertu.
Et alors lui, c'est aussi, comment dire, il prône la prostitution, alors que Madame de Saint-Ange, elle prône le mariage.
L'arrangement du mariage.
C'est-à-dire que,
d'une part, Madame de Saint-Ange dit à Eugénie se livrer au plus de plaisir possible, mais c'est pas parce que ça fait du bien de violer les vertus, c'est parce que de toute façon, le temps va passer et que bientôt, elle ne sera plus désirable et qu'il faut se faire des bons souvenirs. C'est-à-dire que là, la violence n'est pas reprise à son compte puisqu'elle est là dans le fait que la jeunesse passe. Bon. Elle est là et on la subit, ce qui est très différent du blasphème. Madame de Saint-Ange apprend aussi à Eugénie à dissimuler, c'est-à-dire à respecter en effet les lois du mariage et non pas à devenir effectivement une prostituée, à les respecter apparemment. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à Dolmansé quand même, elle lui recommande de satisfaire toutes les fantaisies, y compris coprophagiques, de son mari, pour que l'union officielle tienne, parce que comme ça, pendant ce temps-là, elle peut avoir tous les amants qu'elle veut, surtout sans jamais tomber amoureuse, sinon le système ne marcherait plus, et il faut qu'elle paye des laquais pour acheter leur silence. Voilà. Donc, le viol de la loi générale qu'est le mariage, façon féminine, c'est ça. À mettre avec quand même le fait que c'est pas elle, Madame de Saint-Ange, qui décide de jouir du blasphème, puisque de toute façon la fin du plaisir est inscrite dans la nature et que autant se faire plaisir le plus possible avant que ça n'arrive.
Donc elle a une conscience que Dolmansé n'a pas.
Voilà.
Fin du plaisir, que ça puisse s'arrêter
voilà.
Un jour.
Elle a une conscience qu'un jour ça s'arrêtera et qu'il vaut mieux en avoir bien profité, ce qui est assez plat du point de vue de Dolmansé. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout cela? En fait, ce qui m'intéressait en lisant Sade, c'était d'essayer de préciser, à partir de la pratique de l'analyse et aussi à partir de la lecture de textes littéraires et philosophiques, comment les hommes et les femmes changent d'objet d'amour. Et Sade n'est intervenu là-dedans que parce que, dans ses textes, il y a une indifférence complète dans le passage d'un objet à un autre, puisque aucun objet ne vaut, la seule chose qui importe, c'est que le libertin puisse le détruire et jouir de cette destruction. Bon. Alors, je me disais, par rapport à la question de la substitution d'un objet pulsionnel à un autre, comme dit Freud, c'est vraiment soit le degré zéro, soit l'extrême. Bon. Et j'essayais de saisir comment une femme passe d'un homme à un autre, par exemple. Est-ce comme Don Juan, c'est-à-dire quand un beau visage se présente, même si j'en avais 1000, je les donnerais tous, les anciens visages. Bon, ça ressemble à un inconditionné au sens kantien ou au sens sadien. Cette manière dont un des termes se détache et au nom de ce terme inconditionné, bouf, tous les autres sont ravalés. Or, il me semble que, justement, ce n'est pas au nom d'un terme idéal que une femme accepte de lâcher un objet et peut en trouver un autre. C'est d'abord parce que, pour pas devenir folle, en imaginant qu'un objet est toujours là alors qu'il n'est plus là, et me semble-t-il, quand on voit ce que c'est que la logique d'un rêve, ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est en imaginant des substitutions possibles.
Vous me parlez des liens de l'amour, Eugénie. Puissiez-vous ne les jamais connaître? À qu'un tel sentiment pour le bonheur que je vous souhaite
n'approche jamais de votre cœur. Qu'est-ce que l'amour ? On ne peut le considérer, ce me semble, que comme l'effet résultatif des qualités d'un bel objet sur nous. Ces effets nous transportent, ils nous enflamment. Si nous possédons cet objet, nous voilà contents. S'il nous est impossible de l'avoir, nous nous désespérons. Mais quelle est la base de ce sentiment ? Le désir. Quelles sont les suites de ce sentiment ? La folie. Tenons-nous-en donc au motif et garantissons-nous des effets. Le motif est de posséder l'objet. Eh bien, tâchons de réussir, mais avec sagesse. Jouissons-en dès que nous l'avons. Consolons-nous dans le cas contraire. 1000 autres objets semblables, et souvent bien meilleurs, nous consoleront de la perte de celui-là. Tous les hommes, toutes les femmes se ressemblent. Il n'y a point d'amour qui résiste aux effets d'une réflexion saine. Ô filles voluptueuses, livrez-nous donc vos corps, tant que vous le pourrez. Foutez, divertissez-vous, voilà l'essentiel. Mais fuyez avec soin l'amour.
Je crois que la scène libertine, pour lui, exige du recueillement. Et c'est vrai qu'il l'a écrite, lui-même étant enfermé. Mais je ne sais pas si la prison, c'était à la fois un lieu qui rendait le désir presque intolérable, en fait, en le transformant en un manque atroce. Et ça faisait partie d'un châtiment inimaginable, dont l'œuvre est un écho, en partie. Mais la prison aussi était effroyable, puisque c'était une suite d'interruptions, d'abord, et on ne peut pas dire que c'était idéal pour écrire, quand même.
Mais justement, dans sa correspondance, on comprend bien le châtiment, enfin, son rapport au châtiment.
Sa correspondance est un texte extraordinaire, d'ailleurs. Parce que là, on sent beaucoup plus la personne. Et on sent ça... D'abord, le très grand champ de ses émotions et la variabilité et la drôlerie, l'humour, la malice, la tendresse, tous ces ressorts. L'humour, non, ça paraît dans son texte. Mais la tendresse, par exemple, non. Alors que il s'en a envie de jouer. Le caractère ludique de Sade est très visible dans sa correspondance.
Et surtout avec sa femme, qui a l'air de pas toujours bien comprendre... Justement, cet aspect ludique. Mm-hmm. Alors, cette relation à sa femme, c'est quelque chose de presque hallucinant.
Oui.
Alors,
oui.
C'est étonnant de garder un lien si longtemps.
Oui. C'est un lien...
Uniquement par... de manière épistolaire.
Oui. Mais ce qu'on sent en lisant cette correspondance, c'est le génie d'emprise et de... persuasion que possédait Sade, et comment sur une femme il avait métamorphosé cette femme, et il a su la rendre en connivence avec sa propre aventure libertine, qui était quand même risquée, complexe et infatigable.
Et d'une certaine façon, il est quand même parvenu à la franchir de sa famille.
Oui. Et c'est quand même un exploit. Donc ce génie persuasif, rhétorique, qui est constamment à l'œuvre dans ses livres et dans les 120 journées, un des personnages, un des libertins, en tout cas une des manies répertoriées, c'est celle de séduire et convaincre. Et ce personnage, il est très essentiel. Il est celui qui convainc une jeune fille de s'abandonner au libertinage. Et c'est tout. Il ne jouit pas des fruits, il convainc, c'est tout. Et on sent qu'il y avait chez Sade cette volupté précise, mentale, d'amener l'autre à des positions absolument opposées et à tout d'un coup accepter le pire, ce qui était le pire à ses yeux. Et avec sa femme, il a parfaitement réussi. Et cette correspondance, elle est merveilleuse, parce que Sade y déploie quelque chose qui relève du quotidien. Et on comprend quelque chose de la... d'abord de cette brillance verbale perpétuelle et des virevoltes. Il y a entre sa femme et lui, il n'y a pas simplement de la part de René Pélagie, l'épouse de Sade, une connivence étrange sur tout ce que son mari peut inventer. Et il a une inventivité riche. Il y a une circulation d'objets. Et Sade ne renonce jamais à ses désirs, mais ne renonce jamais non plus à ses goûts, à son hédonisme. Et ce qu'on lit à travers sa correspondance, c'est la manière dont il essaie de faire... C'est un temps qui lui fait horreur et dont il souffre atrocement, physiquement, mais il essaie aussi de faire ce temps en prison une continuation de son mode de vie. Et donc, les lettres sont énormément des demandes d'objets et de nourriture. Donc c'est aussi ça que l'on découvre de Sade. Et dans les recherches d'objets, la complaisance de sa femme et la bonne volonté est illimitée, puisque par des chaleurs torrides, elle peut faire je ne sais combien d'allers-retours dans Paris pour trouver le godemiché que désire le marquis, affrontant les situations les plus ridicules, la risée des fabricants, tout. Je veux dire, il y a chez cette femme, elle était hors d'elle-même, d'une certaine façon. Et je pense que c'est... ça, on ne peut jamais savoir, mais c'est une hypothèse que, quand elle a su que le marquis de Sade allait être libéré, elle s'est plus sentie de force à vivre comme ça, si loin d'elle, et de son milieu, et de ses habitudes, et de ses limites, qui étaient énormes. Elle a eu peur et au fond les forces de vertu en elle avaient repris, et la force de la religion surtout, et donc elle a demandé le divorce au moment où Sade sortait de prison.
Mais à la fois elle part au couvent.
Oui,
donc elle...
Là elle y vivait déjà.
Mais elle s'enferme de manière définitive.
Oui, mais ça, je crois que sa vie a été complètement enfermée, constamment. Puisque tout le temps où elle vient vivre à Paris pour être proche de Sade, c'est une vie terrible, où elle fait des démarches pour essayer de le sortir de là. En même temps, sa famille à elle existe. Et puis, elle s'occupe de lui.
Et elle sert aussi d'intermédiaire entre sa famille le marquis de Sade.
La mère essentiellement,
puisque bon...
Madame de Montreuil.
Comment dire, sa sortie ou sa libération, c'est quand même aussi lié à son bon vouloir.
Au bon vouloir de...
De la mère de...
Exactement. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas non plus rompre avec sa famille. Donc elle est dans une situation... Elle est dans une situation épouvantable.
Oui, c'est vraiment l'intenable...
Exactement.
Mai 1780. Au travers de tous vos jolis petits rabâchages, et dont j'ai la plus fière indigestion qu'il soit possible, vous oubliez tout net mes commissions. Je vous les ai cependant demandées dans deux lettres de suite. Je vais donc les répéter à la fin de celle-ci, afin que vous n'en puissiez plus prétendre cause d'ignorance. Que je voudrais, Madame la Marquise, qu'il me fût possible d'aller m'humecter un petit moment sous ce torrent de faveurs qui découle de votre munificence, comme le baume des plantes précieuses d'Arabie, en invoquant humblement les ongles de vos pieds. Je vous supplierai de jeter un clin d'œil sur ma chétivité et de m'arracher d'ici comme une mauvaise herbe dont le rapport n'est utile qu'aux bêtes malfaisantes et qui, dans un autre terroir, pourrait s'améliorer infiniment.
Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, ce que faisait Sade, excusez-moi, mais c'était du pipeau. Je
veux dire, Alain Prochian.
Tous les aristocrates dignes de ce nom, lisaient un tout petit peu ce qui se passait sous Louis XV, mais quand même à la fin du règne de Louis XV, on est sous la Régence, les petites maisons, les maîtresses, on s'échangeait, et les putains, éventuellement, on les bastonnait, on ne les payait pas, on les renvoyait chez elles. Tout ça était tout à fait normal, d'une certaine façon, dans une société de classe qui était la société aristocratique. Donc le libertinage au XVIIIe siècle est une forme quasiment sociale acceptée. À partir du moment où, évidemment, on en prenait ses aises avec les gens du peuple. Il y a de l'aristocrate chez Sade au sens le plus, je dirais, réactionnaire possible, d'une certaine façon. Pour lui, il ne pouvait pas comprendre pourquoi on lui en voulait d'avoir pédiqué quelques putains et fait manger la cantaride à ses invités à travers dans des pastilles en chocolat. Ça n'avait pas de sens. Le problème, c'est la figure théorique de Sade. Pourquoi elle nous intéresse aujourd'hui et pourquoi elle a été, en fait, un objet de dégoût, mais aussi un objet d'oppression, c'est-à-dire que par tout ce qui a été les oppresseurs, c'est-à-dire en fait la terreur, sous Napoléon, sous l'Ancien Régime. Il y a une raison très simple. Une raison très simple, c'est que a fait l'erreur, ce malheureux Sade, d'épouser la noblesse de robe, hein, d'épouser une bourgeoise. Hein. Et les valeurs bourgeoises, comme chacun sait, c'est la famille. La famille et l'argent. Il dilapidait l'argent et couchait avec sa belle-sœur. En fait, c'est ça qu'il a payé. Hein? C'est pas du tout le libertinage. C'est pas ses livres qu'il a payé. Ce qu'il a payé, c'est d'avoir dilapidé l'argent de la famille et être parti avec sa belle-sœur en Italie. Sa femme étant d'accord, mais pas sa belle-mère, par contre. Et c'est là qu'est venue la lettre de cachet. Vous savez, et donc, en fait, ces deux grandes forces de la bourgeoisie, qui sont la famille et l'argent, d'une certaine façon, Sade est un héros moderne, est un héros très moderne de ce point de vue, parce qu'il s'est opposé contre cette forme d'enfermement social que présentent ces instances présentées comme naturelles, en particulier la famille.
Part donc de la légitimité de ces principes, Eugénie, et brise tes fers à quelque prix que ce puisse être. Méprise les vaines remontrances d'une mère imbécile à qui tu ne dois légitimement que de la haine et que du mépris. Si ton père, qui est un libertin, le désire, à la bonne heure, qu'il jouisse de toi, mais sans t'enchaîner, brise le joug s'il veut t'asservir. Plus d'une fille ont agi de même avec leur père. Fou, en un mot, fou. C'est pour cela que tu es mise au monde. Aucune borne à tes plaisirs que celle de tes forces ou de tes volontés. Aucune exception de lieu, de temps et de personne. Toutes les heures, tous les endroits, tous les hommes doivent servir à tes voluptés. La continence est une vertu impossible dont la nature violée dans ses droits nous punit aussitôt par mille malheurs. Tant que les lois seront telles qu'elles sont encore aujourd'hui, usons de quelques voiles. L'opinion nous y contraint, mais dédommageons-nous en silence de cette chasteté cruelle que nous sommes obligés d'avoir en public.
On oublie, je crois, souvent que Sade est mort en 1814 et qu'il est aussi un écrivain du 19e siècle et que, par exemple, on peut saisir dans sa correspondance que une de ses tantes, je crois, lui avait fait passer le génie du christianisme de Chateaubriand.
Chateaubriand, quel commentaire en a-t-il fait ?
Il, c'est très joli, je crois qu'il dit que s'il devait être convaincu par un discours de vertu, hélas, ça aurait eu lieu depuis longtemps.
Tu ne t'es pas effacé. Les lettres de ton nom sont encore une cicatrice, un tatouage d'infamie sur certains fronts, comète au lourd sillage phosphorescent. Raison, obsession, tu traverses le 19e siècle une grenade de vérité à la main et tu éclates en butant sur notre époque. Octavio Paz.
C'est beau ça. C'est très très beau. J'avais complètement oublié. Ah, c'est parfait. Ouais. Très très beau.
Parce qu'au 19e, on l'oublie après.
Complètement. C'est effrayant même, je crois. Avec les conneries que dit Michelet.
Alain Prochian, vous avez choisi de traiter des enjeux de l'embryologie et de la neurobiologie sous une forme dialoguée, explicitement inspirée de la philosophie dans le boudoir de Sade. Et vous avez intitulé la biologie dans le boudoir. Alors bon, ça se passe dans un château, il y a quelques protagonistes fameux, le maître des lieux c'est Honoré Descamps, éminent biologiste, comme vous peut-être. Homme d'esprit, cultivé. avec un certain penchant pour le libertinage, enfin vous me démentirez, il est assisté de Léanor Smith, sa jeune maîtresse, pour initier aux sciences biologiques Laure Calvet. Alors bon, c'est elle qui joue le rôle de la pucelle, et puis intervient entre autres Paul Duchâtelet, mathématicien, bon, féru de sciences naturelles, dont la formation matérialiste lui vient de son éducation marxiste. Alors bon, quelle était pour vous la pertinence de cette mise en scène?
Bon, c'est un peu le jeu du hasard. En fait, je cherchais à écrire un livre sur la biologie sous une forme un petit peu particulière, parce que ce n'est pas le seul livre sur la biologie que j'ai pu écrire. Mais ce que j'essaie de retracer, de montrer, c'est d'une certaine façon le rapport qu'il y a entre la science et la littérature. Donc c'était une forme assez intéressante, celle du dialogue en tout cas. Et puis bon, c'était pour mes... Moi, ce sont quand même mes passions nocturnes, hein, l'écriture. J'ai des passions diurnes aussi
vos passions nocturnes.
Qui me tiennent attachées. Mais Sade avait des passions nocturnes extrêmement sages, quand même. Dans les 26 ans de forteresse, il a fait comme moi, il a écrit, quoi. Donc, essentiellement, hein, quand même voir les choses comme elles sont. Je crois pas qu'il ait jamais tué quoi que ce soit. Enfin, on me démentira, il l'a peut-être pas dit, mais il a eu du mal là où il était. Donc, pour revenir à cette histoire, c'est ce qui m'intéressait dans ce texte, en fait, de la philosophie dans le boudoir, c'est le problème de la nature. C'est-à-dire, c'est Sade comme philosophe de la nature. Certains de mes amis, ou de mes collègues, ou de mes pères, ou de mes maîtres, pensent que j'ai pris Sade comme ça par hasard. J'aurais pu prendre Diderot, j'aurais pu prendre... Voltaire ou Rousseau, mais pas du tout. J'ai pas du tout pris Sade par hasard. J'ai pris Sade pour la raison que je pense que Sade a une philosophie de la nature qui intéresse aujourd'hui les biologistes.
Alors en quoi elle peut intéresser les biologistes?
D'abord, elle intéresse tout le monde, hein, pas que les biologistes. Et ça, je pense que je vais pas me laisser enfermer dans un discours de biologiste, parce que je pense que Sade aujourd'hui, on pourra y revenir, je souhaite qu'on y revienne, est probablement un des pics sur lequel on peut s'appuyer pour résister, j'utilise le terme tout à fait volontairement, pour résister à une dégradation idéologique tout à fait massive dans le monde moderne, contre la philosophie des droits de l'homme en particulier. C'est-à-dire que ce que Sade fait de façon extraordinaire, on y reviendra j'espère, c'est qu'il défend la singularité, le droit à la singularité. Et je crois que c'est indépendamment de qui est Sade, de ce qu'a écrit Sade, de l'idée qu'on se fait de Sade, une référence philosophique ou symbolique qui permet de répondre à cette philosophie de l'universalité des droits, hein, en s'appuyant sur quelqu'un qui défend de façon violente, et qui a défendu d'ailleurs, au prix de son enfermement, le droit à sa propre singularité, contre toutes les oppressions, contre tous les oppresseurs, eh bien je pense que c'est quelque chose d'aujourd'hui fondamental pour les gens qui croient encore à quelque chose qui pourrait s'appeler la liberté, qui en fait la liberté d'être ce qu'on est.
Monique David Ménard, vous avez abordé l'œuvre de Sade à partir d'une réflexion plus générale autour du concept d'universel, dont vous avez souligné la dimension décisive, tant du point de vue de notre logique que de notre morale ou de notre philosophie politique. Alors, quelle est la singularité de la place de Sade dans cette fabrique de l'universel?
Je peux d'abord vous répondre d'un titre. La singularité de la place de Sade, c'est de vider l'inconditionné kantien. Au lieu de mettre la loi, il met la jouissance du libertin. Bon, mais dit comme ça, c'est un peu lapidaire. Kant dit que ce qui caractérise tous les humains, c'est de ne jamais seulement faire des choses pour un but déterminé, qui peut être fort bon, fort mauvais, c'est pas le problème. Le seul problème, c'est qu'il soit déterminé. Donc, les humains ne font jamais les choses seulement pour un but déterminé, mais en se posant la question de savoir si ce qu'ils font pourrait représenter une loi d'un monde humain possible sans contradiction.
Alors il prend un exemple assez singulier qui est la situation d'un homme face au gibet, qui permet de bien comprendre...
Oui. On dit à un homme que il va pouvoir passer une nuit d'amour avec la personne de son choix, mais la condition, c'est qu'à la sortie de la chambre, le lendemain matin, un gibet l'attend. Et dit Kant, tout le monde sait bien, tout le monde reconnaîtra, c'est ça le sens commun moral dont il s'agit de produire une description, tout le monde reconnaîtra qu'il appartient à tout homme de pouvoir suspendre la possibilité du plaisir pour rester en vie. Mais dans le second exemple que Kant cite en même temps, on voit bien ce que c'est que l'inconditionné d'une manière qui entre nécessairement en contradiction avec ce qu'il appelle les motifs sensibles. Alors je vais en parler. Le second exemple, c'est l'exemple du faux témoignage. Un tyran demande à un homme de livrer ses amis politiques et il lui promet d'avoir la vie sauve. C'est une promesse de tyran, mais il lui promet d'avoir la vie sauve si il donne les noms de ses copains. Kant dit, nous ne savons pas ce que fera ce prisonnier, mais en tant qu'être humain, il lui appartient essentiellement d'avoir au moins à se poser la question, de savoir si il ne préférerait pas mourir plutôt que de livrer ses amis, parce qu'il appartient sans contradiction à l'idée d'un monde humain possible, que la parole ne soit pas violée. Bon. C'est ça l'inconditionné. Et là, on voit bien que dans cet exemple-là, l'inconditionné rend possible qu'on suspende les intérêts de la vie. Voilà. Alors, quand je disais que Sade avait mis en position d'inconditionner le plaisir du libertin, eh bien, je rappelais simplement que là où, pour Kant, la loi morale traverse tous nos intérêts empiriques et les resitue, Sade, lui, il dit que ce qui traverse tous nos intérêts et les resitue, en fait des pas grand-chose équivalents, c'est l'envie de jouir, le plaisir du libertin, une seule goutte de sperme éjaculée de ce sexe vaut plus que toute considération qu'on pourrait avoir sur la question de savoir si le plaisir ne viole pas la vertu.
Te dresser contre tous, à présent tu es un nom, un chef, un étendard. Octavio Paz.
L'insistance moralisante sur le sort des victimes est absurde, complètement absurde. L'univers de Sade, c'est la mise, c'est le déploiement d'une suite de goûts. Et le goût dominant est évidemment le goût de jouir. En infligeant la souffrance ou en la recevant. Mais il y a aussi au fond de ça une situation très simple qui est le certain dispositif ou le dispositif singulier qui porte une personne au sommet du plaisir possible. Ce que dit Sade et ce qu'il enseigne dit qu'il faut le trouver, ce dispositif. Alors c'est pervers, ou si c'est normal, c'est dans les normes, c'est pas très intéressant. Si c'est pervers, et c'est ce que ça démontre, alors il faut vraiment multiplier les atouts, faire que ce soit aussi extraordinaire que possible. Et dans cette scène, qui implique la cruauté donnée ou reçue, il y a des figurants. Alors, il sent nécessaire, comme dans les grandes mises en scène de Fellini, il sent nécessaire. Il n'existe pas en soi, ou alors un quart de seconde.
Que dans la scène, par rapport à la scène.
Voilà, et ensuite, le rideau tombe sur eux. Il y a quelque chose qui n'existe pas vraiment dans Sade, c'est l'idée de relation, et qui n'existe pas du tout même, c'est l'idée de relation psychologique. Il y a des contrats de complicité et qui peuvent être exaltants parce qu'ils sont au sommet d'un risque perpétuel, qui est d'abord la trahison ou la déception, que par déception un des deux envoie l'autre dans un volcan ou le liquide. Mais c'est tout, c'est des contrats momentanés qui doivent faire brûler l'esprit et le corps.
Dans la philosophie dans le boudoir, ça dit qui va faire œuvre de philosophe. Et il énonce une proposition.
Et même de logicien,
et de logicien, oui. Donc j'ai essayé de le prendre au pied de la lettre. Il dit, les lois sont faites pour le général, et naturellement, si elles sont faites pour le général, elles ne sont pas faites pour le particulier. C'est-à-dire que l'idée que la fonction de l'universel, c'est de prendre dans ses filets les cas particuliers, est complètement tournée en dérision. Et il prétend construire un monde cohérent à partir de ce principe. Alors, j'ai lu dans le détail la philosophie dans le boudoir en voyant s'il démontrait vraiment ce qu'il voulait démontrer.
Alors, comment ça se passe dans ce texte?
Alors, ça se passe
en résumé.
De plusieurs manières, oui. En résumé, ça se passe qu'on ne sait jamais. Enfin, il ne s'explique pas vraiment sur rationnellement, autrement que par des exemples et en se mettant en scène, sur cette violation constante des lois qui ne valent que pour le général, par le particulier. Il affirme ce que c'est que le plaisir du libertin, qui est l'outrage et le blasphème, c'est-à-dire justement le fait que la jouissance, elle est prise au moment où le général est violé, où ce qu'énonce le principe dans la généralité est violé. Bon. Alors, j'appelle outrage de la loi ou de la vertu, et blasphème lorsque ce qui est violé, c'est le principe divin qui est censé être l'origine de ça. Et il dit tout à fait que le plaisir qu'éprouve le libertin consiste à démonter Dieu, à le faire sortir de son piédestal, et que même il y a quelque chose là qui est le ressort de la jouissance et qui s'exaspère, parce que comme ce Dieu est vraiment nul, et que jurer quand on jouit, blasphémer quand on jouit, c'est le ressort du plaisir, après Dieu n'est plus sur son piédestal, et dit-il, la seule chose que je voudrais faire, c'est le remettre sur son piédestal pour, en jouissant, pouvoir le faire descendre.
Donc le libertin a besoin de Dieu pour trouver sa propre légitimité, enfin au moins à la transgression de ses actes.
Dans le blasphème, oui. Il faut constamment, comme il dit, réinstaller le fantôme pour pouvoir de nouveau blasphémer et jouir par là.
L'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter.
Alors, ce qui est bien connu dans les textes de Sade, c'est que bon, il procède par à la fois des exposés théoriques et puis bon, une forme de théâtralité des actions, enfin, bon, qui sont les scènes. Alors, où est-ce que la loi s'inscrit dans l'exposé théorique, enfin la loi du libertin
C'est tout le problème. Il dit qu'il est philosophe, mais le fait que ce soit un théâtre, ce livre, La philosophie dans le boudoir, fait que son propos, développer un principe et l'établir, est constamment mis à mal, et que on ne peut pas le lui reprocher. Simplement, il ne faut pas qu'il dise qu'il est philosophe. Ou bien il veut démontrer, ou bien il écrit un beau livre. Bon, et les deux se mélangent toujours. Et en particulier, cette affaire de particulier et général, le fait que les intérêts d'un individu violent toujours les lois, et qu'il ne faut pas se raconter le contraire, ça débouche dans la question de la destructivité de la nature. parce que cette histoire de viol de la loi, qui est censée être le bien, va de pair avec la manière dont il fait l'apologie de la cruauté, et dont il dit que le plaisir du libertin, de l'unique qui vaut plus que tout le reste, ce plaisir, il est lié à la cruauté, mais sans qu'on sache tout à fait comment, parce qu'il varie dans son théâtre. Il lit toujours trois choses. Alors, il y a quelque chose sur le rapport entre la cruauté et le plaisir qui n'est pas vraiment démontré. Il y a l'idée que la nature est meurtrière et que c'est pas par laquelle elle est naturelle. Et puis, il y a l'idée que la destruction est une loi de la physique mécanique. Et alors, on ne sait jamais si les deux derniers points ne sont pas là pour justifier ce qui reste ambigu et non démontré dans le premier.
Bien qu'il s'agisse d'expériences assez lointaines de celles que j'ai pu avoir, je pourrais dire ceci, c'est que l'intensité est plutôt une aide dans la voie qui mène à une sorte de ravissement, dans la mesure précisément où l'intensité détruit. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'il faut toujours, comme je l'ai d'ailleurs dit, une intensité supportable. Et que d'autre part, le travail de l'esprit, et pas seulement le jeu des sensations, ont une importance considérable à ce moment-là.
Merci, Georges Bataille. Mais justement, cette question de la reproduction, telle que la voix Sade.
Ça s'est reproduit, hein?
Oui, ça s'est reproduit. Mais disons, dans le texte sadien, ce n'est pas la reproduction qui est privilégiée, c'est la sodomie. Mais pourquoi voir...
Vous savez, la sexualité est séparée de la reproduction depuis belle lurette, heureusement.
Oui, mais pourquoi voir dans la sodomie
pas souvent.
Le nec plus ultra de la destruction?
Non. C'est une question. C'est une question intéressante. Hein. Moi, je pense que dans la...
Parce qu'on peut imaginer aussi la reproduction comme une forme de destruction.
Bah, de toute façon, je ne crois pas que Sade pense la sodomie comme une force de destruction. Il pense la sodomie comme une force de non-reproduction. Et quand vous vous placez au XVIIIe siècle, de nouveau, c'est-à-dire que vous voyez ça avec un air moderne. Mais remettez-vous au 18e. Hein. Les meilleurs lecteurs de Sade sont des femmes. Et c'est pas pour rien que les meilleurs lecteurs de Sade sont, pour moi, Annie Lebrun et Chantal Thomas. C'est clair. Parce qu'en fait, les héros de Sade sont des héros féminins. Les grands héros de Sade sont des héros féminins. Justine en particulier, Juliette, etc. La sodomie au XVIIIe siècle, est une façon pour les femmes d'échapper à un terrible destin. Hein, c'est-à-dire que la faute jusqu'à l'invention de la pilule ou des préservatifs qui fonctionnent, la faute se marquait souvent par la reproduction, c'est-à-dire par la honte, d'une certaine façon visible. Elle se doublait au XVIIIe siècle de la mort. Dans beaucoup de cas, parce que, comme vous le savez, on a inventé les antibiotiques et les antiseptiques assez récemment. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine période, qui n'est pas si éloignée que ça, jusqu'au 19e siècle, la mort en couche par infection était quelque chose de tout à fait banal. Hein. Promenez-vous dans les cimetières, vous verrez que les hommes se mariaient deux ou trois fois parce qu'ils perdaient très souvent leur femme au moment de l'accouchement. Donc, d'une certaine façon, la sodomie était, et c'est bien dit d'ailleurs dans les textes, hein, la sodomie était une façon de permettre aux femmes d'assurer une liberté sexuelle, leur liberté sexuelle à elles, sans encourir le double risque de tomber enceinte ou de mourir en couche.
Mais ce qui est un peu étonnant quand même, c'est que la manière dont vous concluez la biologie dans le boudoir,
les mots que vous mettez dans la bouche du commandeur, et sur lesquels j'aimerais bien que vous vous expliquiez. Vous dites, le libertin, le vrai, est celui qui sait tenir le monstre en laisse et qui jouit de sa férocité sans nuire à son prochain. Le libertin vrai est un littérateur. Alors vous, vous assumez ce point de vue? Parce qu'on peut finalement presque se dire, est-ce que le libertin n'est pas celui qui parle pour ne rien dire, ou plutôt pour ne pas agir?
Oui, j'assume totalement ce propos. J'assume totalement ce propos parce que, je crois qu'effectivement, le problème, c'est de tenir le monstre en laisse. C'est aussi le problème de Sartre, de tenir le monstre en laisse. Aucune organisation sociale ne peut survivre sans loi. Pas possible. Pas des lois de la nature, pas des lois divines, mais des lois sociales. Et il y a du Montesquieu chez Sade, c'est-à-dire que ce que Sade reconnaît, c'est que chacun d'entre nous a sa propre morale, qui est liée à sa propre constitution, et qu'il doit s'arranger dans l'endroit où il naît pour que sa propre singularité puisse s'accommoder avec celle des autres dans un ensemble construit, qu'un ensemble social, qui est un ensemble qui permet les interactions entre les gens.
Oui, mais alors là, vous dites qu'il faut s'organiser, enfin, en fonction de sa propre... individualité, est, bon, faire sa petite organisation.
Mais c'est pas sa petite organisation, c'est-à-dire
ou, qu'il y a... ou alors, bon, ce que vous dites qui est quand même plus polémique, qui est aussi un enjeu de résistance.
Oui.
Comment vous articulez les deux?
Je voudrais intervenir sur cette affaire de résistance. Le second point de mon accord avec ce que dit Alain Prochian, c'est en effet que la singularité, c'est décisif. Mais la seule forme d'existence de la singularité n'est pas la résistance au général, aux lois du général ou de l'universel. Je suis d'accord, et ça a des résonances par rapport à certaines questions tout à fait contemporaines, c'est vrai, que je suis d'accord pour dire que ça peut être en effet une manière de trouver ou de retrouver des forces pour résister, mais je ne crois pas que l'idée que la singularité est toujours incompatible avec les lois générales soit l'unique manière de concevoir le statut du singulier. Il me semble que tu privilégies un petit peu exclusivement cette forme-là de singularité. Comme ça, en effet. Hein, puisque on parlait tout à l'heure de cette idée que
dans la philosophie dans le boudoir, revenir, là, parce que...
il dit, une seconde, il dit les lois sont faites pour le général et naturellement les individus ne peuvent qu'ignorer les intérêts de la loi. Donc
non,
la question...
Oh, si, il dit non, ça. Non, il dit pas ça. Il dit pas ça. Dolmancé dit ça.
Dolmancé dit ça.
Comment? Mais lui ne dit pas ça. La preuve, c'est qu'il ne fait pas ça. En fait, le propos... En plus, je n'ai pas envie de faire de l'exégèse de Sade, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut des lois générales aussi douces que possible qui permettent justement à ces singularités de coexister dans le cadre de ces lois.
Oui, mais il dit qu'il faut des lois aussi douces que possible parce que l'intérêt... de son intérêt pour la violence est lié aux passions individuelles. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est contre la peine de mort. Il dit qu'il ne faut pas instituer la peine de mort parce que la violence est beaucoup plus violente quand elle est liée aux passions individuelles. Et
ça.
Donc... Ah, si, il dit ça.
Non, il dit qu'elle est beaucoup plus excusable. Il dit qu'autant il peut excuser ou comprendre le mari jaloux qui, dans une crise de fureur, assassine sa femme et l'amant de sa femme, parce que c'est justement de l'ordre de la passion, donc qu'il ne contrôle plus sur le plan individuel, autant il ne peut pas comprendre que la mort soit assénée de façon froide et calculée en dehors d'un processus passionnel par un appareil d'État, parce que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter.
Chimérique et vain, dont le nom seul a fait couler plus de sang sur la surface du globe que n'en fera jamais répandre aucune guerre de politique, puisses-tu rentrer dans le néant dont la folle espérance des hommes et leur ridicule frayeur osèrent malheureusement te sortir. Tu ne parus que pour le supplice du genre humain, que de crimes épargnés sur la terre, si l'on eût égorgé le premier imbécile qui s'avisa de parler de toi. Montre-toi donc si tu existes. Ne souffre pas surtout qu'une faible créature ose t'insulter, te braver, te baffer comme je le fais, qu'elle ose renier tes merveilles et rire de ton existence, vil fabricateur de prétendus miracles. Le parallélisme que vous faites entre Sade et Bataille, j'y avais un petit peu pensé, notamment, ils ont tous les deux, ils interpellent Dieu d'une certaine façon à leur façon, et il semblerait que, alors que Bataille soit beaucoup plus mystique, bon, si on pense à Madame Edwarda, où il considère finalement Dieu comme une putain, il semblerait que Sade, lui, finalement, a besoin de Dieu, justement, pour pouvoir au moins le blasphémer, mais qu'il n'y ait pas vraiment de rapport mystique.
Non. Non, je suis d'accord avec vous.
Alors qu'il a été troublé lors de ses voyages en Italie, malgré tout, par tout l'art religieux italien.
Il y a un catholicisme de Sade, au sens où on sent très bien que c'est sa formation, que c'est son horizon, et que, effectivement, pendant le voyage en Italie, par exemple, le baroque religieux et l'extraordinaire théâtralité et le sens du grandiose. Il y a une très belle phrase dans Sade où il dit « Vois en grand, mon ami, ne rapetisse jamais tes idées. » Cette manière de voir en grand et de toucher le ciel l'inspire complètement. Pas sur un mode mystique, en effet. Mais je crois que il a besoin de Dieu, en effet, ne serait-ce que pour s'égaler à lui et pour que son défi prenne une ampleur presque cosmique et éternelle. Et c'est un des balancements et une des énigmes de la pensée de Sade, je crois. Cette adresse à une puissance supérieure, qu'il s'agisse de vaincre ou d'outrer. Et les grandes déclarations... Elles existent en même temps que des grandes déclarations d'athéisme. Les deux se disent avec la même conviction et ce même orgueil sadien.
N'est-ce pas aussi finalement aussi un peu un cri d'impuissance? Parce que bon, je pense notamment à ce qui arrive à Justine. C'est toujours la main de Dieu finalement qui possède le corps de la victime. C'est la foudre qui traverse Justine, c'est pas le libertin qui parvient à accéder à son corps.
Ah mais moi je crois pas du tout, parce que dans la Sade, réellement pose le libertinage comme un phénomène de propagation illimité. Et la terre et le ciel participent du projet libertin. Et la foudre qui traverse Justine, c'est bien entendu l'ironie libertine. Rien n'échappe au libertinage dans Sade. Et quand Justine implore Dieu, c'est évidemment un ricanement jubilant du libertin de voir que Dieu l'aide quand même assez peu. Dans l'univers de Sade, le libertin ne peut être que triomphant. C'est un renversement d'ailleurs exact de ce qui lui est arrivé dans sa vie, puisqu'il est vraiment le libertin malheureux par excellence.
Mais alors,
il est le libertin puni au-delà de toute mesure. Et dans ses romans, ces libertins ont une impunité radicale. Il y a d'ailleurs une dimension à la fois réaliste et surréelle de Sade. La dimension réaliste, c'est que ces personnages sont vraiment des personnages contemporains. Et que les abus et les privilèges d'Antistargue pouvaient effectivement avoir lieu. Évidemment, la dimension surréelle, c'est que le champ de leur exploration est au-delà de toute possibilité.
Tout le problème, c'est que la biologie dans le boudoir... Non, pas la biologie dans le boudoir, la philosophie dans le boudoir... C'est un texte littéraire. Donc, même quand il représente des actes, ce sont des actes réfractée par la mise en œuvre d'un texte. Bon. Alors, quand il ne dit pas qu'il jouit du blasphème, il dit que dans l'acte de jouir, le ressort de l'acte, c'est en même temps qu'il jure et qu'il blasphème. Bon.
Donc il a besoin du blasphème.
Il a besoin du blasphème, mais...
Et c'est une façon de prendre à témoin Dieu ou la nature avec un grand N.
Oui, oui, oui. Alors on peut dire que c'est une transformation d'une violence qui ne serait que celle d'un acte, que c'est une métaphore d'une violence interne au désir. De la même manière, enfin, le problème se pose aussi dans le texte qui est intercalé au milieu de la philosophie dans le boudoir, qui s'appelle « Français, encore un effort, si vous voulez être républicain ». Dans ce texte, il propose le modèle d'une cité où on ménagerait des espaces où tout citoyen pourrait réduire l'autre à l'objet de sa jouissance, même en lui faisant mal, en le déchiquetant, tout ce qu'on voudra. Alors, est-ce que c'est la métaphore de l'autre scène, comme dirait Freud, c'est-à-dire du fait que la structure du désir n'a pas les mêmes lois que le reste de la vie? Ou bien est-ce que c'est un programme de réforme constitutionnelle effectif? On ne le sait pas, puisque ça prend place à l'intérieur d'un texte qui hésite entre démonstration philosophique et fiction littéraire. Donc, est-ce que ce qui fait, c'est d'écrire là, métaphoriquement, la violence interne du pulsionnel, en se racontant un peu moins d'histoire que la majorité de nos amis et concitoyens? Ou bien est-ce qu'il y a l'outrance d'une violence qui est au fond la justification d'un acte? C'est bien difficile de répondre, sauf par, tout de même, semble-t-il, l'effet qu'il produit sur le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui outrepasse la démonstration, c'est la violence que constitue le fait de lire Sade. C'est très pénible, parce que... C'est pas seulement qu'il parle de la cruauté ou de la jouissance, c'est qu'il force le lecteur à éprouver ce dont il parle.
Il est pris à témoin, le lecteur.
Plus qu'à témoin, il est pris dans le scénario. C'est pour ça que c'est un peu dur, c'est quelque chose que Annie Lebrun, dans son livre sur Sade, a remarqué. C'est une vraie épreuve de lire Sade. Et ça, ça semble vouloir dire que ça se passe jamais seulement dans l'ordre du langage. Il y a quelque chose dans cette manière de faire fonctionner le langage qui emporte le fonctionnement effectif de nos désirs, et c'est bien ça qu'il veut faire. Et donc la cruauté, quand on se demande si l'exercice d'une jouissance cruelle fait de la cruauté un accident de la jouissance, un effet secondaire, ou si c'est la raison d'être, là on a quand même un élément de réponse. Il s'agit de forcer l'autre à...
C'est maintenant, ami lecteur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Sans doute, beaucoup de tous les écarts que tu vas voir peints te déplairont. On le sait, mais il s'en trouvera quelques-uns qui t'échaufferont au point de te coûter du foutre. Et voilà tout ce qu'il nous faut. Si nous n'avions pas tout dit, tout analysé, comment voudrais-tu que nous eussions pu deviner ce qui te convient? C'est à toi à le prendre et à laisser le reste. Un autre en fera autant. Et petit à petit, tout aura trouvé sa place. C'est ici l'histoire d'un magnifique repas où 600 plats divers s'offrent à ton appétit. Les manges-tu tous? Non, sans doute, mais ce nombre prodigieux étend les bornes de ton choix et ravi de cette augmentation de faculté, tu ne t'avises pas de gronder l'amphitryon qui te régale.
Il y a un enseignement de Sade, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est autour d'un extrême presque inconcevable souci de clarté et d'exposition et de construction d'une grande œuvre, de quelque chose qui vraiment tient comme une très grande composition musicale, et dans la base est infime, dans la base est l'obscurité même du goût, et du goût sexuel, qui est la chose la plus difficile à appréhender. On s'y livre en aveugle. Et pour moi, c'est ça la leçon de Sade. Elle est de vraiment vouloir dire l'indicible, et pas seulement le lire, mais de le trouver en soi. C'est donc de ne pas reculer, quelque chose autour de ne pas reculer sur son désir et sur ses variations, sur ses changements, être dans une sorte de justesse d'écoute.
Et c'est pour cette raison que vous dites qu'il suffit que vous pensiez à son existence pour qu'aucune forme de découragement ne puisse vous atteindre.
C'est pour cette raison, parce qu'en effet, il pose comme base de travail ce qui est en général le point où on renonce, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on désire, comment on désire, et aussi parce que au nom même de cette connaissance du désir et de son accomplissement à tout prix, il est prêt à tout endurer. Et que et c'est pourquoi la chose la plus loin de Sade, c'est l'ennui et la résignation, qui sont pour moi l'atrocité même, c'est ça, la mort vivante, c'est ça. Et Sade, c'est vraiment les antipodes de toute forme de renoncement.
C'est l'antidote.
Et c'est pour ça que je trouve que lire même une phrase de Sade, c'est survoltant, parce qu'on est immédiatement à une sorte de sommet inouï.
Mais ça reste encore insupportable aujourd'hui.
Dans certaines conséquences de la chose, certainement. Le fait que il y ait une autonomie de tout ce qui est de l'ordre du fantasme et du désir par rapport à ce qui est de l'ordre de la continuation d'une société, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'accord simple entre la continuité de la vie et la problématique du désir, ça reste très difficile à accepter pour de vrai. Par exemple, dans les théories psychanalytiques, on entend souvent qu'il y a comme ça, c'est ce que disait Freud, mais Freud n'est pas le seul, que le désir d'enfant serait comme l'accomplissement naturel d'une substitution d'objets, et donc désir d'enfant, ça va de soi. Or, au fond, l'une des questions que ça oblige à se poser, c'est qu'est-ce que c'est un désir d'enfant? À quel titre est-ce un désir? Comment ça s'inscrit par rapport à d'autres objets de désir? Il est bien vrai que dans la culture du XVIIIe siècle, Sade a violemment annoncé une sorte de déchirure interne à une continuité simple entre la nature, le désir, la vie, et qu'à ce titre, il reste scandaleux et pour une part intéressant.
Et sa fin, comment vous la voyez? Elle est quand même triste, la fin de Sade.
Mais toutes les fins sont tristes. Je ne connais pas de fin qui soit une sorte de sanction et d'addition d'une sagesse accumulée. Mais quand tout à l'heure nous parlions de la femme de Sade, de René Pélagie, de Montreuil, il faut aussi dire que dans la seconde phase de prisonnier de Sade, de sa vie de prisonnier, quand il est à Charenton,
il vit d'une certaine façon, c'est mieux, c'est plus réussi parce qu'il a avec lui sa compagne, mais il a recréé avec une autre femme, dont on ne sait rien à peu près, Constance, qui est née, la même relation qu'avec sa femme. C'est-à-dire, lui qui est le libertin par excellence, est aussi par excellence la personne qui sait créer un lien de fidélité, et de fidélité totale, puisque cette jeune femme, cette jeune actrice, va vivre avec lui à Charenton, et d'une certaine façon, accomplir exactement les fonctions de son épouse, puisque c'est elle qui fera le lien entre lui et le dehors. Alors Charenton, bien sûr, c'est atroce, puisqu'il vit dans le contexte de la folie. Mais en même temps,
il a presque un vrai travail thérapeutique et pédagogique, puisqu'il y fait du théâtre. C'est assez étonnant, cette idée.
Il y fait du théâtre. Ce qui le sauve, je crois, c'est que le directeur de Charenton est passionné par lui. C'est évident. Et qu'il lui propose de faire jouer ces petites pièces. Et ça devient un spectacle très parisien. On vient de Paris pour y assister. Et leur jeu, et c'est ça que je trouve passionnant, au contraire de ce qui est mis en scène dans la pièce de Peter Weiss, Marassade, le jeu, le déroulement de ces pièces était on ne peut plus raisonné, raisonnable, lisse, sans accroc. Et ce qui plaisait à Sade, c'est que ça se passe de la meilleure façon possible, et ce qui plaisait aux malades qui se trouvaient là, c'était aussi que l'égarement ne passe pas. Et c'est ça que je trouve, moi, merveilleux.
Combien de temps nous a-t-on répété que les monarques sont de bons papas, à l'ombre desquels nous vivions en paix et leurs exploits nous étaient chantés par des poètes vendus, et les braves pères de famille mettaient tout leur cœur à seriner cette leçon à leur progéniture. Les monarques sont de bons papas, à l'ombre desquels nous vivions en paix, les monarques sont de bons papas, à l'ombre desquels nous vivions en paix. Ainsi maintenaient-ils dans leur ignorance, de peur qu'ils se révoltent contre leur maître, contre ceux qui régnaient sur eux, sous le prétexte de Dieu et du ciel.
Monsieur de Sade, je m'élève contre cette façon de faire. Nous étions d'accord pour censurer ce passage. Enfin, de quoi tout cela a-t-il l'air ? À présent, que notre empereur est entouré des dignitaires du clergé, et que chacun peut voir tous les jours combien le peuple a besoin des consolations de l'Église.
Dans la réalité, c'était ça, c'était cette politesse extrême.
Cette rétention dans une parenthèse de la folie.
Oui, mais la folie est là, elle couve. Et c'est évidemment très proche de la manière dont s'expriment les personnages dans La philosophie dans le boudoir, par exemple, où on se dit avec les mille formes nécessaires, le vouvoiement le plus juste et la politesse requise, les atrocités les pires. Et là, il y a ce jeu aussi entre un abîme qui est là et ces représentations si mondaines et si charmantes. Mais ce qui, effectivement, rendait la chose plus piquante pour Sade, c'était l'idée qu'on avait effectivement voulu le retirer du monde.
Et que le monde venait à lui.
Voilà. Pour ce motif, en plus.
C'est une victoire assez étonnante.
Oui, il était maître de diction par rapport à cette petite troupe sympathique. Et sa fin, elle est... Mais elle est à la fois terrible puisqu'il est prisonnier, et prisonnier dans des conditions... c'est pas la rigueur du règlement qui est atroce, c'est la proximité, évidemment. Mais où on sent que rien en lui n'a abdiqué, c'est que jusqu'à la fin, il fait des projets pour sortir. Non seulement pour sortir, mais pour organiser une vie avec son ami. Et dans les dernières notes, on comprend aussi qu'il inclurait une jeune fille.
La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands afin que par la suite, le terrain de ladite fosse, se trouvant regarni, le taillis se retrouvant fourré comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes. Testament, 30 janvier 1806.
Ce qui est exemplaire dans Sade, il me semble, c'est que il a été sanctionné sur les... avec une sorte de rigueur, presque la rigueur d'une construction, en deux parties. La première partie pour ses actes et la seconde partie pour ses œuvres. Et ça, c'est quand même très... C'est effrayant d'une certaine façon. Je veux dire, il a pu échapper à rien du point de vue de la sanction.
Et puis la censure a continué jusqu'en 1904. Alors comment comprendre cette espèce d'acharnement à punir Sade?
Mais il est irrecevable. Moi, je continue de penser qu'il est vraiment irrecevable. Que ce qu'il dit, qui est une déclaration du mal absolu, c'est réellement inacceptable. Et que la société ait réagi comme ça, ça prouvait au fond qu'elle comprenait le message de Sade.
C'était Une vie, une œuvre, Sade, l'éternel prisonnier de nos mémoires, une émission de Catherine Paoletti et Jacques Taroni, avec Monique David-Ménard, auteur des Constructions de l'universel aux Presses universitaires de France, Chantal Thomas, auteur de Sade aux éditions du Seuil et de Sade, l'œil et la lettre aux éditions Payot, Alain Prochian, auteur de La biologie dans le boudoir aux éditions Odile Jacob et la voix de Georges Bataille. Mixage, Jean-Frédéric.